Mesdames et messieurs, bonjour. Nous revoilà ici à la radio UMH sur la Costa Blanca Alicantine, la radio de l'université Miguel Hernandez d'Elche. Aujourd'hui avec Pierre Vive qui vous parle, mon collègue Joan Andreu. Bonjour Joan.
Bonjour là.
Mati aujourd'hui n'est pas là, hélas. Elle sera là prochainement. Et nous avons une invitée très spéciale. Et je parle d'Elina Arustamian.
Bonjour à tous.
Alors, nous allons voir qui est Elina Arustamian et pourquoi elle est là. C'est un nom, disons, aux accords orientaux, pas d'un Orient très lointain, mais de celui de l'Europe. Elina Arustamian est une citoyenne russe moscovite qui vit à cheval entre Moscou et ses nombreux voyages, ses pays européens qu'elle adore. Plus de 20, n'est-ce pas, mademoiselle Arustamian, Elina?
Oui, j'aime bien voyager, surtout en Europe. Et maintenant, je suis en Espagne, plutôt pour vivre et pour commencer ma nouvelle vie ici.
Bon, alors, l'Espagne vous a séduite. Pourquoi? Et une chose très curieuse, c'est que nous sommes en train de parler avec une citoyenne russe qui a un français déjà excellent. Je vous l'assure, vous ne l'écouterez peut-être pas aujourd'hui en espagnol, mais Elina également parle très bien l'espagnol. Et c'est un exemple pour nous tous d'une personne que l'on nomme polyglotte. Une personne vraiment qui se débrouille, qui adore les langues, qui parle plusieurs langues et qui a de très nombreuses qualités, même professionnelles et linguistiques. Alors parlez-nous un peu de vous, de votre cursus et comment est apparu donc cet amour des langues étrangères.
Merci beaucoup Pierre, c'est très gentil. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup de langues étrangères, plutôt les langues d'origine latine, romanique. Au début, en fait, quand j'ai commencé à apprendre les langues, enfin, c'était comme pour tout le monde la langue anglaise, c'était pas du tout intéressant pour moi, j'avais beaucoup de difficultés et j'ai pensé que pourquoi je dois apprendre une langue étrangère, c'est pas ma profession, c'est quand même la profession des traducteurs. Mais après, quand j'ai commencé à apprendre la langue française, j'ai bien compris que c'est juste la langue anglaise que j'aimais pas. Et avec la langue française, ça commençait ma nouvelle étape. Et maintenant, je comprends que j'adore le mélodisme des langues romaniques.
Et le portugais
Le portugais aussi, je parle. Portugais, espagnol, français et anglais. Et c'est vrai que les langues romaniques, pour moi, c'est comme une chanson, très belle chanson.
Donc vous en aimez les harmonies et les cultures qu'elles véhiculent, parce qu'une langue, c'est également donc une culture, n'est-ce pas?
Oui, c'est clair que j'adore la culture de ces pays, de Portugal, de l'Espagne, de la France. Et chaque langue, elle aide beaucoup à découvrir la culture de ce pays. Parce que ça, sans apprendre la langue, c'est pas possible vraiment connaître la culture du pays.
Oui, nous savons également, nous sommes bien renseignés que vous avez même commencé déjà à étudier l'italien. Et enfin, vous venez un petit peu chez nous, vous savez qu'il y a également une langue propre ici, le valencien, le catalan. Alors, vous avez déjà songé à compléter donc votre panorama des langues romanes, des langues latines?
Oui, je crois que je vais finalement tomber pour parler toutes les langues romaniques. Oui, italien, c'est tout nouveau pour moi. Pour l'instant, j'aime bien. C'est aussi très mélodique, aussi comme une chanson. Et bien sûr, c'est facile à apprendre chaque nouvelle langue romanique parce qu'ils sont tous pareils. Il y a beaucoup de mots pareils. La grammaire, plus ou moins, est simple à apprendre parce que c'est très pareil dans chaque langue.
Est-ce que, oui. Est-ce que c'est la même chose avec les langues, slave, oui. Par exemple, la langue, le polonais ou le dans le sud. Et il y a
le tchèque ou le tchèque, serbo-croate.
Et le serbo-croate, je voulais dire.
Oui, c'est vrai que je peux comprendre la langue tchèque, polonais, croatien aussi. Quand je suis allée en Croatie, par exemple, je communiquais avec les gens en russe. Ils me répondaient en croatien et on comprenait très bien l'un à l'autre.
Et la langue
aussi, la langue bulgare, oui, aussi. Enfin, je peux comprendre.
Donc, il y a donc c'est cette même proximité que nous retrouvons dans, chez les langues latines, romanes. On la retrouve donc dans l'Europe orientale avec le croate et bon, d'autres langues qui se ressemblent beaucoup. Il y a une chose, une citation que je vais faire d'un livre que j'ai vraiment adoré d'Alice Parisot qui s'appelle « Nata et le professeur ». Étant moi-même professeur, je l'ai tout de suite retenu parce que j'ai adoré. C'est l'expression qui suit, et je cite textuellement, « La langue commune forme des liens plus forts que les liens du sang. » Nous sommes d'accord avec ça. C'est très proche également d'une phrase que j'ai sur mon WhatsApp, sur mon téléphone, qui provient d'un philosophe francophone roumain qui dit « On n'habite pas un pays, on habite une langue. » Parce que s'il y a une langue que vous habitez, certainement, c'est le français. Où que vous alliez, même en Espagne, je vous sens très proche de cette culture, de ce pays. Et pourquoi, en fait, le français en particulier ?
Enfin, c'est vrai que je dis toujours que chaque langue, c'est comme une passe à l'entrée à ce pays. Et pourquoi le français ? Parce que la France, c'était toujours mon pays préféré au monde. Et Paris, c'est ma ville préférée au monde.
Je partage aussi cet amour, je dois le dire.
Et je connais très bien la France, surtout Paris. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Je voyage très souvent à Paris. Donc, ce serait impossible pour moi découvrir la France sans français. C'est clair.
Oui. Je dois dire également, en poursuivant donc avec cet univers des citations, de ce qui s'est passé cette semaine même à l'université, dans des cours que je dispense auprès des étudiants en traduction, interprétariat. Donc, il y a une sorte de révélation qui s'est imposée en parlant avec des élèves. Là, on a établi un échange. Et finalement, c'est cette phrase qui m'a percuté, soudain. Elle provenait d'un étudiant, je crois qu'il s'appelle Daniel, je ne connais pas vraiment. Mais c'est une réflexion. Et je sens qu'on y est peut-être un peu tous. Je n'ai pas choisi le français, c'est le français qui m'a choisi. Est-ce que vous vous y reconnaissez, vous y retrouvez un petit peu dans cette phrase ?
Oui, peut-être, je suis d'accord avec cette phrase. Je me souviens même plus quand ça commençait mon amour avec le pays. Ma mère, elle dit toujours que ça commençait avec le fouetton Hélène et les garçons quand j'étais petite.
Ah, quand même, oui. Ça, c'est lointain déjà un petit peu, hein, relativement. Si vous êtes jeune, il faut le dire. On vous écoute, on ne vous voit pas.
Et oui, mais c'est vrai que après, tu comprends que tu es autant lié avec la langue que tu ne vas pas même déjà la vie sans cette langue.
Bon, en parlant donc de cet amour que vous portez à la France, je vais vous donner une nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais savez-vous qu'en France, on fête la Sainte-Hélène, que l'on ne retrouve pas partout ?
Oui, c'est vrai que cette fête religieuse que m'étonne en fait parce que c'est la fête catholique, mais quand même.
Disons que en fait, les fêtes, ça ne se fête pas, excusez-moi, en France vraiment, mais elle existe.
Elle existe seulement en France.
C'est ce qui est curieux.
Et surtout, ça existe seulement en août. Et c'est le mois quand je suis née. Donc peut-être c'est pourquoi aussi c'est mon pays préféré. Je sais pas.
Oui, alors on va faire une petite pause musicale maintenant parce qu'on va parler un petit peu donc de cet amour pour la vie, cet amour pour la langue, cet amour des échanges que l'on peut retrouver à travers les paroles d'une magnifique chanson de 1964 de Françoise Hardy, « Mon ami la rose », mais que nous allons écouter ici dans une nouvelle version, toute nouvelle. Déjà, nous en sommes déjà dans les années 2000 avec la chanteuse égyptienne, belge de naissance, Natacha Atlas, chanteuse des musiques du monde, qui en fait une version orientale magnifique, qui parle donc de du carpe diem, du tempus fugit, de ce que l'on doit faire pour profiter de la vie. Et vous êtes quelqu'un qui est pleine de vie, qui adore les langues, et sachez que, eh bien, c'est l'attitude que nous devons avoir devant la vie. Et partageons donc cette très belle version de Natacha Atlas.
On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Eh bien, voilà, on s'est laissé porter un petit peu par cette chanson qui est pleine de messages d'amour, d'humanité, et voilà, un peu d'arabe, un peu de français dans cette traduction, enfin un petit peu ce côté multiculturel que nous partageons aujourd'hui avec Elina Roustamian, que nous retrouvons ici, Et en reprenant également l'un de mes livres de chevet préférés, Les Maximes et Réflexions de l'écrivain allemand Goethe, qui disait « Qui ne sait aucune langue étrangère ne sait pas sa propre langue. » Je crois qu'effectivement, à partir des langues étrangères, il est possible de mieux accéder à sa propre culture, ne serait-ce que par le fait des comparaisons, des contrastes. Êtes-vous d'accord, mademoiselle Aroustamian ?
Oui, je suis complètement d'accord. Quand tu apprends des autres langues étrangères, tu comprends mieux, beaucoup mieux ta propre langue. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont pareils dans chaque langue et tu comprends d'origine pourquoi ça est devenu comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup mieux.
Bon, maintenant, vu que nous avons déjà abordé un petit peu les langues, on pourrait continuer sur cette voie énormément, mais je voudrais parler un petit peu de votre cursus professionnel, de votre formation d'un côté universitaire, de vos études. Et une chose qui m'a touché, je sais que Joanne souhaite vous poser des questions, mais moi, je veux poser la première question de ce côté-là, puisque cette question, je suis fan, j'avoue, d'Eurovision, du grand concours d'Eurovision.
Moi aussi.
D'accord. Notre rêve, c'est de présenter l'Eurovision. Ah ben, tous les trois, ce serait génial, hein. Puisqu'on le présente dans les deux langues officielles que nous connaissons tous les trois, l'anglais et le français, qui sont les langues originales. Donc, ne serait-ce que même de dire les points, dire « And here are the results of the French jury ».
Et la voici Russie, les résultats. Deux points.
Russia, 10 points.
Russia, 10 points.
Par exemple, ce serait génial. Bon, en revenant à cela, j'ai appris que vous aviez été la haute responsable de gérer un petit peu la carrière d'un point de vue, les rapports avec la presse, avec les médias, du grand chanteur russe Philippe Kirkorov, qui lui-même a chanté au concours d'Eurovision et qui est le responsable également c'est le coach, si je puis dire, de la plupart des chanteurs, des chanteuses qui représentent la Russie en Eurovision, la Russie qui, par ailleurs, obtient de résultats extraordinaires en Eurovision, parce que bon, c'est des chansons qui sont bien, bien travaillées d'un point de vue de la mise en scène, des voix et des messages qui nous arrivent, qui nous touchent. Alors parlez-nous d'un côté, tout d'abord vraiment, comment en êtes-vous venu à devenir donc la responsable de presse, de communication, rien que ça, de Philippe Kirkorov, qui, il faut le dire, est une grosse, grosse star, vraiment très médiatique en Russie. C'est comme dire Alejandro Sanz en Espagne. C'est quelque chose d'énorme. Je veux dire, c'est comme si un jour on me disait... vous vous occupez d'Alejandro Sanz. Moi, écoutez-moi, je trouve qu'on hallucine.
Oui, c'est vrai que c'était comme réaliser mon rêve total. C'était ma première expérience professionnelle parce que avant, disons que j'étais sa fan depuis l'âge de 12 ans et j'ai visité tous ses concerts, je connaissais très très bien toute sa biographie, toutes ses nouvelles, j'étais toujours au courant.
C'est-à-dire qu'au départ, vous n'étiez qu'une fan parmi tant d'autres,
exactement.
Alors que tout le monde adore Philippe Kirkorov, vous étiez une de ces personnes qui apprécient son art, qui le suivait, qui le connaissiez et qui était en forte admiration.
Exactement, parce qu'il a, millions de fans en Russie, il est numéro un. Et moi, j'étais une des autres. Mais un jour, son directeur m'a appelé, il m'a dit, Elina, qu'est-ce que vous pensez si vous travaillez avec nous? Parce que lui, il veut vous embaucher.
Comment vous avez reçu cette nouvelle? Imaginez, vous êtes en admiration, que sais-je. Moi, il y a énormément de chanteurs français que j'adore. Et soudain, recevoir un appel, quelqu'un se met en contact avec moi pour me dire que ce chanteur veut que moi, tout simplement moi,
travaille
m'occupe de lui, travaille avec lui et pour lui. C'est fou, non?
Alors, figurez-vous.
Incroyable.
Figurez-vous que moi, j'ai répondu, je vais en penser, je vais réfléchir.
Et vous avez dit, je vais réfléchir.
Et oui, exactement.
Alors, imaginez, je ne sais pas. Attends, moi, à l'époque, par exemple,
oui.
Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, à l'époque, moi, j'étais très fan. par exemple, on m'appelle pour me dire que Sylvie Vartan ou Johnny Hallyday veulent que je m'occupe de Non, non, c'est le rêve. Vous avez dit, je vais réfléchir.
Non,
ah, ça, c'est incroyable.
C'était tout simplement parce qu'à l'époque, j'ai étudié à l'université. Et j'ai
vous étiez étudiante.
Oui, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans.
19 ans simplement et un poste avec une
j'étais
si haute
tout jeune.
Oui, oui, quand même.
Et j'ai pensé, mais comment ce sera possible de faire les deux choses en même temps, l'université plus travail. Et donc, j'ai hésité, mais finalement, j'ai accepté la proposition. Et c'est vrai qu'un an et demi après, je suis partie parce que j'ai compris que c'était pas possible de comparer, de faire les deux choses en même temps.
C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que vous étudiez le matin.
Oui.
L'après-midi, le soir, vous étiez en train de gérer donc la carrière de Philippe Kirkorov.
Et la nuit,
vous ne dormiez pas, vous étudiez, vous prépariez les dossiers.
Et voilà, la nuit, je faisais mes devoirs de l'université et après j'étais...
C'est quand même fou ça. Et vous avez tenu quasiment 2 ans, 1 an et demi. C'est énorme. Hein.
C'était une folie.
Parce qu'il faut dire que vous êtes très jeune encore.
Merci.
Et que vraiment, vous avez quand même derrière vous beaucoup de choses. Et
combien de heures vous avez, en ce moment-là, dormi par jour? Par jour.
Maintenant?
Ah non, avant.
Avant, ah non, mais quand j'ai travaillé avec lui, c'était, je sais pas, 4 heures, 5 heures par jour, c'était pas beaucoup.
C'est
du
fou,
tout.
Ça n'était pas un peu trop de pression pour vous à l'époque.
Si, si.
Et en même temps, ça devait être ahurissant pour vous, je veux dire, avec les yeux de la jeunesse. Si vous étiez déjà en contact avec lui, ça veut dire que vous étiez également en contact avec d'autres stars médiatiques de la chanson, du cinéma, de la télé même. Je veux dire, vous étiez vraiment, vous deviez vous mettre en contact avec ces personnes-là, puisqu'il fallait gérer donc cette carrière. Et vous deviez sans doute assister soit à des émissions, soit à beaucoup de choses. C'est le rêve de toute jeune personne.
Oui, c'est vrai que j'ai connu...
Ça devait impressionner quand même, au début, je pense.
Oui, j'ai connu beaucoup de personnes dans le show business russe, mais après, bien
sûr... Par exemple, vous pourriez dire des noms de célébrités
Presque tous les chanteurs, chanteuses russes, acteurs...
Je pense que beaucoup de vos amis doivent vous jalouser. Hein.
Et même, par exemple, les stars internationales. Philippe, par exemple, a chanté avec une star grecque, Sakis Rouvas.
Sakis Rouvas, a représenté la Grèce également, à 2 fois, n'est-ce pas?
Et exactement. Ils ont fait un duo ensemble.
Ça a dû faire un tabac aussi. Et Sakis Rouvas, quand même, c'est une célébrité en Grèce et il est connu internationalement aussi.
Exactement. On a organisé, par exemple, la présentation de leur disque à Moscou.
Bon, alors vous deviez être vraiment... vous deviez flotter, je pense, à l'époque. C'était quelque chose.
Oui, au début, j'étais super heureuse. Mais après, bien sûr, la fatigue a gagné, malheureusement.
Ça s'est imposé. Et voilà. Mais ça vous permet quand même, à un très jeune âge, d'avoir quand même acquis beaucoup d'expérience dans la vie.
Oui, c'était une très jolie expérience, très pratique. Et je suis contente que j'avais ça.
Oui, une expérience qui vous a mené à des autres expériences pendant 7 ans d'expérience professionnelle. Quel boulot vous avez aimé le plus?
Après, je suis spécialiste de marketing et publicité et j'avais, par exemple, ma propre agence de publicité à Moscou. Et là, c'était autre expérience très, très, très intéressante pour moi parce que j'avais des clients internationaux dans beaucoup de pays, spécialement des pays hispanophones.
C'est la raison pour laquelle, vous avez un espagnol excellent, si je puis dire.
Oui, merci. Oui, après...
Vérifier.
Mes clients m'ont aidé beaucoup, c'est vrai. Et voilà, ici maintenant en Espagne, je voudrais bien aussi trouver un travail dans mon domaine parce que ce serait intéressant d'avoir une expérience dans d'autres pays.
Oui, et donc si vous aimez la France, l'Espagne aussi vous a conquise. Puisque en ce moment, vous êtes en Espagne et vous nous rendez visite très souvent. Nous avons eu la chance de vous capter en ce moment. C'est une chance vraiment de vous avoir parmi nous dans cette émission. Je voudrais savoir, puisque vous êtes en Espagne, qu'est-ce qui vous attire de l'Espagne également? On va parler de l'Espagne en français également. Et pour une Russe, qu'est-ce qui est différent, par exemple? Qu'est-ce qui peut vous choquer, vous surprendre des différences, puisque ça fait très peu de temps finalement que vous êtes ici parmi nous Et en plus, d'une manière assez aléatoire, vous faites des allers-retours de temps à autre, comme une star internationale, comme Filip Kirkorov, qui arrive, qui ne nous dit pas quand il est là, quand il repart.
Tout d'abord, c'est le climat espagnol qui est vraiment magnifique. Le soleil tous les jours. Après, j'habite à Alicante, donc c'est la mer qui change les couleurs tous les 5 minutes. Et ça, c'est magnifique. C'est une merveille d'Alicante. Qui n'existait pas à Moscou, malheureusement.
Oui, la mer n'est pas, c'est pas la porte d'à côté.
Exactement. Et après, les gens sont très, très, très gentils ici à Alicante, dans la région alicantine. Ça, j'aime bien parce qu'ils t'aident toujours, ils sont très communicatifs et c'est très facile ici à trouver des amis, c'est vrai. Parce qu'au début, c'était compliqué pour moi.
Bon, déjà, j'étais la langue, nouvelle. La culture, et on vient d'arriver, parfois comme ça, et puis voilà. Vous venez, vous repartez. Ce n'est pas toujours aisé ailleurs dans le monde d'établir ses contacts au début.
Alors quand je suis arrivée, je suis partie de zéro et maintenant j'ai plein d'amis ici déjà.
Voilà, ça nous fait plaisir. Vraiment, il nous reste très peu de temps déjà à partager dans cette émission. Et je voudrais simplement que vous en profitiez également de ces quelques minutes qui nous restent. Si vous souhaitez aborder un sujet, et parlez-nous un petit peu aussi de votre cursus, de votre formation universitaire. Parce que vous avez dit aussi que vous avez quand même une formation universitaire qui est liée à quoi, quel domaine ?
Alors moi, je suis master en économie. J'ai terminé une école d'économie qui est très connue en Russie. Mais ma spécialisation était bien sûr marketing, publicité, communication.
Et vous aviez votre propre agence, vous nous l'avez dit, de communication, donc c'est quelque chose de sérieux, à Moscou, qui est une ville très compétitive.
Oui, c'était pas facile en fait, parce qu'il y a plein d'agences de pub à Moscou, mais quand même, ça a existé pendant 3 ans et je suis très contente d'avoir eu des clients comme j'avais.
Et enfin, bon, si finalement vous décidiez à rester parmi nous, vous aviez des projets ou des idées en tête ?
Et je ne sais pas, mais je voudrais bien faire des promotions des marques espagnoles ici sur ce marché, parce qu'avant...
Vous parlez des marques de luxe, je pense. C'est ce que vous faisiez peut-être à Moscou, parce que vous travaillez dans le secteur du luxe, VIP, bijoux, parfums...
Des parfums, de vêtements...
Les grandes marques de luxe, enfin...
Oui, je voudrais bien continuer comme ça dans ce secteur. Ouais, oui. Peut-être, pourquoi pas.
Bon, ce sera avec grand plaisir de partager ces expériences. Il nous reste que quelques secondes quasiment. Je ne sais pas si Joanne voulait vous dire une dernière chose ou si vous-même, vous voulez en profiter pour dire bonjour à vos amis francophones de par le monde ou de par ces pays européens que vous avez visités. D'après notre conversation, plus d'une vingtaine de pays où là, ça en fait. Hein.
Mais avant, visitez notre montagne.
La montagne d'Alicante, tout à fait.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est un grand plaisir de participer dans votre émission. Et oui, je dis un grand bonjour à tous mes amis partout en Europe.
Bon, eh bien, un véritable plaisir. Si vous êtes de retour chez nous, n'hésitez pas à revenir. Racontez-nous vos expériences, où vous en êtes. Et on va écouter une très, très belle chanson d'amour qui parle de partage. Et les langues, c'est un peu ça, c'est un peu l'amour. Ce là-bas de Jean-Jacques Goldman. Et nous vous disons à la prochaine en version originale en français. À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Là-bas,
est neuf et tout est sauvage.